La révolution colorée comme réalité par Slobodan Despot. La scène se passe ces jours-ci dans les rues d'une grande ville d'Europe, mais elle paraît sortie d'un film de zombies. Sous la houlette d'une chef d'orchestre aux mains ensanglantées, des choristes se fourrent les doigts dans la bouche, comme pour se faire vomir, en déclamant un poème patriotique. C'est laid, amateuriche, pathétique et incongru. On pourrait hausser les épaules en concluant que les citadins de la classe oisive tuent leur ennui en étirant le carnaval sur la moitié de l'année. On aurait tort. Les manifestations comme celle-ci ont pour but de faire crouler le gouvernement de Serbie et elles ont toutes les chances d'y réussir. L'affaire mérite donc un détour. Depuis des mois, voire des années, la Serbie est le théâtre d'une révolution colorée de basse intensité. Peu à peu, les manifestations s'incrustent dans le tissu de la vie quotidienne. Ici, l'on bloque la circulation, là, on défile avec les slogans. Ailleurs encore, on monte des happenings plus ou moins grotesques comme celui que je viens de décrire. La révolte, comme il se doit, part des étudiants, encadrés et instruits parfois, par leurs professeurs, même les lycéens s'y mettent. Et l'on polarise même les écoliers. Le pouvoir, ainsi chahuté, reste passif. Il ne sanctionne même pas les enseignants agitateurs. On ne sait pas s'il est indifférent ou tétanisé. L'actuelle contestation a pour origine ou prétexte l'accident tragique du 1er novembre 2024, lorsque l'avant-toit de la gare de Novi Sad s'était effondré, tuant 15 personnes. L'entreprise chargée de la rénovation aurait bâclé les travaux et les autorités compétentes auraient fermé les yeux. Deux ministres ont démissionné, l'un a même fini en prison. L'État italien n'en avait pas fait autant, tant s'en faut, après l'effondrement du viaduc Morandi en 2018, qui avait fait 43 morts, et où la filouterie des prestataires et l'incurie de l'État avaient été clairement mises en cause. Le gouvernement serbe, lui, a voulu jouer aux mains propres. Cela n'a rien changé. Au lieu de s'apaiser, les protestations n'ont fait que croître et enlaidir. Deux mois et demi plus tard, on continue de célébrer des minutes de silence pour chaque personne tuée, donc des quarts d'heure, suivis de cris et de tapages. La surenchère de pathos est telle qu'on en oublie le message et finalement la cause de la rébellion, et que toute discussion rationnelle avec le pouvoir devient improbable. Le langage se réduit aux mains rouges. Les leçons mal apprises de l'histoire. Les révolutions colorées partent toujours d'une noble cause, à laquelle toute personne décente pourrait se rallier. Ce peut être un enjeu essentiel ou une question en apparence marginale. La première de ces révolutions, on l'a oubliée, celle de mai 68, avait pour étincelle le limogeage du directeur de la Cinémathèque française. Elle a abouti à la grève générale et au départ du général de Gaulle, le plus grand chef politique français du XXe siècle. Celle qui s'en rapproche le plus par l'ampleur de ses conséquences, la révolution du Maïdan de Kiev en 2013 et 2014, s'est focalisée sur la corruption incontestable du régime de Yanukovych, impliquant que n'importe quel autre régime serait plus vertueux. Ce qui, comme on l'a vu, s'est avéré une illusion tragique. Le mouvement populaire serbe, encadré par l'organisation Otpor, en l'an 2000, qui a fait tomber Slobodan Milošević, partait de la même critique et d'une accusation concrète, quoique peu étayée, l'idée que le président serbe avait falsifié les élections. Il est important, pour la lecture de la situation actuelle, de bien comprendre le mécanisme par lequel on a réussi à déboulonner l'homme qui, juste une année plus tôt, avait victorieusement résisté à l'OTAN pendant presque trois mois de bombardements continus. Il faut avoir avant tout en mémoire que les jeunes activistes d'Otpor, qui signifie résistance, avaient été formés par les théoriciens du renversement de pouvoir non violent, entre guillemets, réunis autour du chercheur américain Gene Sharp, avant de devenir eux-mêmes formateurs de révolutionnaires ultérieurs jusqu'en Ukraine. Ce n'est que des années plus tard que la véritable nature du soulèvement populaire de l'an 2000 a été divulguée au grand public. Elle est désormais notoire, même sur Wikipédia, je cite. L'administration américaine fait du renversement du gouvernement serbe sa priorité à partir de la fin des années 90. À l'approche des élections de 2000, les autorités américaines se rapprochent des mouvements d'opposition serbe, leur procurant des financements et des instructeurs. Selon le Washington Post, cette opération contre Milosevic a coûté 41 millions de dollars aux États-Unis. Citation. Ce fut le début d'un effort exceptionnel pour détrôner un chef d'État étranger, non pas à travers une opération secrète, à l'instar de celle que la CIA a menée en Iran ou au Guatemala, mais en utilisant les techniques d'une campagne électorale moderne. Fin de citation. Les manifestants anti-Milosevic croyaient sincèrement que n'importe quoi vaudrait mieux que le règne vermoulu du Parti socialiste, héritier rhabillé de l'ancien régime communiste. Mais le nouveau pouvoir, issu du coup d'État du 5 octobre 2000, celui du Parti démocrate, ultralibéral et pro-européen, allait démanteler les forces armées, dégrader l'instruction publique et amener le pays au bord du gouffre économique. Le système actuel, celui du SNS de Vučić, parti souverainiste conservateur mais fréquentable pour l'Occident, doit son émergence justement au discrédit du régime dit « jaune », ultralibéral, issu de la révolution de l'an 2000. Sans entrer dans le détail, le pouvoir SNS résulte de fait d'un deal avec les services anglo-saxons, pressés de remplacer leur marionnette précédente rejetée par la population. Le régime du chahut perpétuel. Mais voici venue l'heure de remplacer Vučić à son tour. Les motifs profonds sont liés à sa position internationale, refus de sanctionner la Russie, soutien à l'autonomisation des Serbes de Bosnie-Herzégovine, lien privilégié avec la Chine et tergiversation à reconnaître le Kosovo. Un engagement sans doute inclus dans le contrat avec les puissances étrangères lors de l'adoubement de son parti. Les motifs revendiqués, comme toujours, sont d'ordre intérieur. Notule. Rappelons encore le cas français. De Gaulle fut contesté pour des raisons sociétales, les dortoirs estudiantins mixtes, entre autres. Mais le mobile tacite de la révolution était géopolitique, son retrait de l'OTAN, 2 ans plus tôt. L'important est de ne jamais laisser voir le tableau d'ensemble à la masse révoltée. Fin de notule. À vrai dire, l'actuel président serbe a été chahuté depuis son accession au pouvoir en 2017. Ces vagues de contestation n'ont pas eu l'énergie suffisante pour le chasser, mais ont peu à peu érodé son image et son autorité dans le pays. Sans remonter aux origines, voici quelques moments clés. Migrants. En janvier-mars 2020, face à la multiplication des actes de violence commis par les migrants du Moyen-Orient, des patrouilles populaires s'organisent. Le pouvoir déploie d'importantes forces de police pour contenir non les migrants, mais sa propre population. Il sera sauvé de la colère des masses par la proclamation de la pandémie début mars, avec les mesures de restriction correspondantes. Mesures Covid. Fin avril 2020, un mouvement de tapage contre la dictature avait été initié à cause des mesures de confinement, en particulier de l'interdiction de circuler. Le gouvernement a rapidement restauré la liberté de mouvement des citoyens. Les manifestations ont repris durant l'été, motivées à la fois par le refus des contraintes et par le reproche d'une lutte inefficace contre la pandémie. En particulier, les étudiants se sont insurgés contre la fermeture de leurs dortoirs dans le cadre des mesures anti-Covid. Vaccination et passe sanitaire. En avril-mars 2021, des organisations de citoyens s'insurgent contre le port des masques et la pression vaccinatoire. Elles dénoncent le danger des vaccins et la corruption de l'état-major de crise. En septembre, une grande manifestation patriotique et anti-globaliste met dans la même charrette les mesures totalitaires et la propagande LGBT légitimée par le gouvernement. En octobre, après l'introduction d'un pass sanitaire très peu intrusif, ne concernant que les établissements publics à partir d'une certaine heure, les manifestations reprennent à Belgrade et s'étendent à tout le pays, exigeant notamment la démission du coordinateur des mesures sanitaires. Environnement. En mai 2020, un mouvement de défense de nos rivières a exigé l'interdiction de construire des mini-centrales électriques au nom de la préservation des eaux de Serbie. Il a été suivi d'une mobilisation beaucoup plus importante contre le projet de mine de lithium à ciel ouvert initié par la multinationale minière Rio Tinto. Cette cause a rassemblé de vastes couches de population, ainsi que des personnalités de premier plan comme Emir Kusturica ou Novak Djokovic. En fin de compte, le gouvernement a plié en 2022 et a suspendu la licence d'exploitation. Sécurité. La tuerie de masse survenue dans une école primaire de Belgrade en mai 2023, lorsqu'un élève avait abattu 9 camarades et un surveillant, a été récupéré par l'opposition pour mettre globalement en cause la politique sécuritaire du gouvernement. La tragédie de Novi Sad en novembre 2024 n'a fait qu'amplifier cette méfiance et transformer le questionnement en révolte. Ceux-ci ne sont que les thèmes les plus significatifs. Il est manifeste d'emblée qu'aucun sujet de politique internationale n'a mobilisé de manière massive les citoyens de Serbie. Pas même la tragédie lancinante du Kosovo, où le sort de la minorité serbe ne fait qu'empirer. Encore moins la guerre d'Ukraine. La Serbie est probablement le seul pays d'Europe où les points de vue russes et otaniens sont présentés et discutés en parallèle, selon les partis pris des divers canaux d'information, sans soulever d'émotions débordantes. Comment identifier une révolution colorée? Mais il y a un autre aspect de cette déstabilisation chronique qui n'apparaît pas au premier regard, et qui pourtant permet de définir sa nature profonde. Protestation autonome ou révolution colorée, c'est-à-dire tentative de déstabilisation citoyenne dirigée de l'étranger. Ces deux natures peuvent être hybrides ou se transformer de l'une vers l'autre, protestation spontanée devenant révolution colorée au fil du temps. Le critère de discrimination le plus fiable tient dans la revendication ultime qu'elle véhicule. La protestation autonome vise à redresser un tort précis ou obtenir une concession spécifique. La révolution colorée poursuit un but général et maximaliste, décapiter le régime. Et la méthode est à l'avenant, éviter le dialogue et court-circuiter tout processus institutionnel. Pour cela, il s'agit de déplacer en bloc la confrontation sur le terrain symbolique et irrationnel, afin que le pouvoir n'ait plus d'autre outil de dialogue que la contrainte et la violence. S'il y recourt trop tard, comme à Kiev, il sera submergé. S'il y recourt trop tôt, il est perdu aux yeux de l'opinion. Illustrons ceci par les cas cités plus haut. Tout comme les patrouilles populaires, la contestation pandémique, vaccinale, sanitaire était purement autonome, même si la bouffée de violence de juillet 2021 a pu faire penser à un appui extérieur, ou au moins à une éventuelle récupération extérieure en cas d'aggravation. Les éléments les plus radicaux de cette contestation étaient des mouvements nationalistes et fortement anti-occidentaux. De plus, la revendication elle-même allait directement à l'encontre des politiques sanitaires rigoureuses mises en place dans les pays d'Occident. Il était donc malaisé pour le camp pro-occidental d'exploiter une telle énergie contre le pouvoir de Belgrade. Mais il a pu tabler ensuite sur l'affaiblissement du dit pouvoir par une contestation venue du bord diamétralement opposé. On remarquera au passage que la politique sanitaire de la Serbie aura été l'une des plus débonnaires du monde industrialisé, si l'on excepte la Suède et la Biélorussie. J'ai moi-même longuement séjourné en Serbie durant les années 2020-2021 pour éviter l'hystérie et les discriminations sanitaires régnant en Suisse et davantage encore en France. Notule, ce va-et-vient m'a d'ailleurs permis de mieux apprécier le degré de démence qui avait envahi l'Europe occidentale, où les dirigeants et une grande partie de la population avaient véritablement intériorisé l'enfumage covidien. Fin de notule. De plus, les citoyens de Serbie ont pu librement choisir, au moment du résinage, entre 5 vaccins, dont un russe et un chinois. Les plus sages ont opté pour le vaccin chinois, sans ARN messager, qui ne les a protégés de rien, mais qui ne les a pas trop empoisonnés non plus. Des millions d'Européens auraient payé cher en ce temps-là pour vivre sous un tel régime. Cela n'a pas empêché la grogne des Serbes, laquelle a peut-être servi de mise en garde à d'autres gouvernements pour ne pas trop exaspérer leurs propres citoyens. Affaire Rio Tinto, le point de bascule. On peut aussi remarquer que le pouvoir actuel prône un recours extrêmement mesuré à la force. On est très loin de la répression des gilets jaunes, et les consignes restent prudentes, pour ne pas dire laxistes. Ces dernières semaines, les journaux télévisés montrent des rombières hystériques, arrachant boucliers et casques à des policiers impassibles. Le pouvoir semble compter sur la diffusion de tels excès et sur l'irritation causée par les blocages, pour susciter un rejet populaire des manifestants. On peut attribuer cela soit à une maîtrise taoïste, le sage agit en n'agissant pas, soit à une impuissante passivité, courbons les chines et attendons que l'orage passe. En revanche, les mouvements liés à l'environnement et à la sécurité ont pu être détournés, ou plutôt canalisés, en direction de la révolution colorée. Dans un silence médiatique presque total, nous-mêmes avons parlé très tôt du scandale Rio Tinto, en prenant parti contre le gouvernement qui avait autorisé la multinationale de sinistre réputation à dévaster son environnement sous les auspices d'un contrat d'exploitation quasi colonial. À sa décharge, l'État serbe ne faisait alors que remplir les engagements du régime précédent. Cela n'a pas empêché les pontes du dit régime pro-européen devenus opposants de rallier la contestation d'un projet dont ils étaient eux-mêmes signataires. La politique politicienne, heureusement pour elle, ne connaît ni la honte ni la mémoire. À l'origine, les Occidentaux n'ont pas soutenu le mouvement populaire. L'Union européenne, en particulier, avait stratégiquement besoin de cette mine de lithium pour les millions de batteries que nécessite son plan de transition vers la voiture électrique. Le chancelier allemand, jamais à court de Villeni, s'était déplacé lui-même pour appuyer le démarrage de l'exploitation. Tant que le mouvement anti-Rio Tinto se bornait à une revendication concrète et définie, l'arrêt du projet mine de lithium, les médias occidentaux l'ont ignoré. Ils ne l'ont relayé que lorsqu'il est devenu irrationnel et que la revendication a changé. Vučić va-t'en. Pour nous, c'était le signe que la colère légitime du peuple était détournée. L'enjeu n'était plus la sauvegarde de l'environnement, mais le changement de régime. Dès lors, nous avons, nous aussi, changé la perspective pour intégrer cette nouvelle donne stratégique, ce qui nous a été reproché notamment par nos lecteurs serbes, déçus, qui ne comprenaient pas que le sauvetage de la vallée du Jadar, où la mine devait s'ouvrir, n'était plus le sujet. Pour quiconque a étudié tant soit peu le mécanisme des révolutions colorées, continuer de soutenir une noble cause utilisée comme levier dans une opération tout autre était absurde et contre-productif. Il est clair, et les Serbes auraient dû le comprendre après l'an 2000, qu'une fois le pouvoir élu de Vučić remplacé par un régime de type Maïdan complaisant, l'exploitation du lithium, des eaux et des diverses richesses de Serbie reprendrait de plus belle, sous une quelconque filiale de BlackRock, sans aucun contrôle étatique, et que le peuple n'aurait plus rien à dire. Mettons-nous à la place des globalistes assoiffés de lithium. Si un régime vassal, celui de Serbie, cède tout de même à une pression populaire contraire à leurs intérêts, que vont-ils faire? Continuer à supporter ce régime otage de son peuple, ou lui préférer un autre illicite, c'est-à-dire dépendant, qui n'aura rien à le refuser? On a eu ces derniers mois quelques éléments de réponse à cette question, avec les événements de Géorgie et de Roumanie. Avant de se mêler de politique, les bons citoyens, aveuglés par les nobles emportements, devraient méditer cette pensée de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. D'un autre côté, l'enseignement essentiel de ces événements est que la réaction politique face à ce chaos sociétal est vaine et terminée. Si l'on veut résister à ces déferlements de masse, il est crucial de comprendre leurs ressorts psychiques et leurs composantes spirituelles, des dimensions auxquelles les pouvoirs conventionnels sont aveugles et sourds. C'est ce que nous essaierons d'explorer dans un prochain épisode.